Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International, le groupe d'Évreux, pour son émission mensuelle. On est désolé de prendre l'antenne avec un petit peu de retard. On n'y est absolument pour rien. Il y avait un incident technique dans le studio et on a dû faire appel au directeur d'antenne, à JC, qui est venu très gentiment nous dépanner. Aider. Il y avait une panne de courant, pour ne rien vous cacher. Donc, évidemment, faire de la radio sans électricité, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on prend l'antenne avec un petit peu de retard. Mais enfin, bon, il nous reste trois quarts d'heure à passer ensemble. Et donc, pour vous parler des droits humains et de l'actualité des droits humains, puisqu'on est là pour ça. Et ce soir, avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Ronan.
Bonsoir.
Qui a dû préparer précipitamment avec le souci technique et la coupure générale. Voilà. Donc, il y a plusieurs sujets. Alors, on va peut-être changer un petit peu.
On va choisir, oui.
On va peut-être pas changer un petit peu notre façon de faire parce qu'on a une émission qui va être un petit peu écourtée, là. Donc, on va voir. On fera peut-être pas tout à fait ce qu'on avait prévu.
Mais vous l'aurez pour une prochaine fois.
Mais vu qu'ils sont pas au courant de ce qu'on a prévu, ça change rien.
Non, ça va pas les affoler, mais ça va faire un peu plus court, quand même.
Enfin, on va vous parler de l'Arabie Saoudite, c'est sûr, avec l'actualité de la visite du prince Salman avec le président de la République française. Et puis, on va vous parler de peine de mort aux États-Unis. Je crois que c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Oui.
Et puis, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. Pour commencer, je voulais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Gilles Picquoy. Il est avocat. Et il est avocat à Paris. Et il est spécialisé pour la défense des réfugiés. Et il y a un film qui vient d'être tourné, où il tient la vedette, si on peut dire, par rapport à son travail. Et pour information, c'est quand même tout à fait révélateur de la dégradation des droits humains qui se produit, y compris chez nous. Parce qu'en fait, le film était destiné à la télévision, et pour l'instant, il n'y a aucune chaîne de télévision qui accepte de le diffuser. Donc, pour ne rien vous cacher, l'information vient de Télérama, magazine bien connu. Et Télérama, en fait, a décidé de mettre un accès libre sur son site, le film, à partir de demain et pendant un mois. Donc à partir du 11 avril jusqu'au 11 ou 12 mai, quelque chose comme ça, le film sera regardable sur le site de Télérama gratuitement.
Vous tapez. Et il s'appelle comment ton film ?
Oui, je vais vous le dire effectivement.
Puis c'est pas forcément un film, c'est peut-être plus un documentaire.
Oui.
Alors.
On le fait perdre le fil.
Oui. Exactement. Non, c'est pas un documentaire, c'est un film où on le voit travailler.
C'est un témoignage.
Et le film s'appelle « Je suis votre avocat ». Vous n'avez pas fait perdre le fil de la discussion, justement. Donc, ce film s'appelle « Je suis votre avocat ». Il est donc disponible gratuitement pendant un mois sur le site de Télérama. Et voici ce que dit, donc il y a une interview de cet avocat, Gilles Picquoy, et voici ce qu'il dit. Alors, il commence par dire que le terme « réfugié » s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Et il dit un peu plus loin, à la veille de la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi Asile et Immigration, entre parenthèses, on vous en a déjà parlé et on va vous en reparler après, et alors que les avocats qui plaident d'ordinaire à la CNDA sont en grève depuis la mi-février pour obtenir son retrait, il nous a paru important de montrer ce film. Aucune chaîne n'ayant souhaité le diffuser, nous avons décidé de le mettre en ligne gratuitement un mois durant. Alors, il dit plus loin, le discours quasi invarié du politique et par rapport aux réfugiés est plein de préjugés à propos de gens dont on ne cesse de mettre en cause la sincérité et l'honnêteté. À la question qui lui est posée, comment expliquer la relative indifférence de l'opinion publique, il répond, elle tient à l'ignorance, l'information se doit d'aller vite, chaque actualité neutralisant la précédente. Bien sûr, parfois les photos font le tour du monde et viennent troubler notre bonne conscience. Les clichés d'enfants morts sur les plages grecques, ceux des villes éventrées par les bombardements en Syrie, l'émotion dure 20 secondes, puis on oublie. On passe à autre chose. Heureusement, les îlots de solidarité existent, qui refusent de rejeter l'autre parce qu'il est autre. À Calais, dans la vallée de la Roya, des gens ouvrent leurs portes, s'interdisant de détourner le regard. Mais à coups de procès, d'amende, le pouvoir tente de dissuader ces marques de profonde d'humanité. Plus loin, il ajoute, alors qu'ils sont innocents, il parle de réfugiés bien sûr, on fait de ces gens-là des quasi-délinquants, en les accusant de mentir. Ils ne sont pas familiers avec le droit, ils ne parlent pas notre langue et il fallait leur expliquer comment fonctionne le système. Car tant lors de l'entretien à l'OFPRA qu'à l'audience de la CNDA, tous les moyens sont bons pour les faire chuter. Et en guise de conclusion, je vous dirai simplement ce qu'il dit un peu plus loin. À la mi-mars, l'Association française des juges de l'asile, ceux de la CNDA, a rendu public un communiqué qui corrobore ce que nous, avocats, dénonçons dans le projet de loi. Encore une fois, c'est la loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale qui s'appelle « Asile et immigration ». C'est rare et cela montre bien que l'atteinte au droit d'asile est d'une gravité sans précédent et que la vraie finalité des dispositions prévues est de dissuader les réfugiés de demander protection en France. Sous prétexte de la réduction du délai d'instruction, toutes les mesures envisagées concourent à rogner les droits des réfugiés. La diminution du délai pour déposer sa demande, pour exercer son droit de recours. La levée du caractère suspensif de certains recours devant la Cour. La multiplication des décisions rendues par ordonnance. Le recours à la vidéoconférence. Bienvenue dans l'ère d'une logique comptable de l'asile. Voilà. Alors nous, on vous rappelle qu'on est vent debout contre ce projet de loi, aussi bien avec les autres associations, RESF, CFED, etc., qui militent pour l'accueil des réfugiés ici à Évreux. On est vent debout contre ce projet de loi. Et il y a toujours la pétition à aller signer sur le site, la pétition pour demander le retrait du projet ou du moins
on demande que les députés s'engagent.
Voilà. Donc, nous, on l'aura écrit au niveau du groupe, au niveau des adhérents, etc. Mais vous, au moins, qui nous écoutez, allez signer la pétition sur le site amnesty.fr. Vous l'avez directement sur la page d'accueil. Il faut qu'il y ait la plus grande pression. Le projet de loi doit être discuté courant avril.
Il est discuté. Oui. Actuellement...
Voilà. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être voté, parce qu'il va y avoir des amendements, etc., etc. Et on a peut-être encore un peu de temps devant nous.
Bah, mais... Après, il va falloir écrire au sénateur aussi, voilà. Parce qu'après, il va passer au Sénat.
Et on a demandé aussi une entrevue auprès des députés pour leur expliquer notre point de vue, mais ce projet est une atteinte grave aux droits des réfugiés. On le répète encore une fois.
Voilà, et quand même aussi une précision qui me semble importante, c'est que le défenseur des droits est aussi contre
le
projet de loi et essentiellement ce qu'Amnesty dénonce et les autres associations. Donc c'est important de savoir que c'est pas que du militant, mais c'est aussi des gens qui sont sur la place des droits humains et qui ont une...
Tout à fait. Voilà. Et aussi les professionnels, puisque c'est un des motifs de grève, effectivement, des juges de la CNDA.
Alors, enfin, ils ont repris. Ils ont repris mais ils ont été en grève au moins pratiquement presque un mois.
Et de toute façon, ils ont la même analyse du projet de loi, effectivement, etc., etc. Et aussi de leurs conditions de travail qui vont se dégrader. Parce qu'un des principes de la loi, c'est de raccourcir le délai de recours pour les gens qui sont une première fois déboutés par l'OFPRA, la première instance, pour qu'ils puissent faire recours devant la CNDA. Ils n'auront plus que 15 jours. Et donc, le traitement des dossiers va être accéléré, mais avec pas plus de personnel, bien évidemment. Donc, ils vont être complètement submergés. Ils n'auront plus le temps de faire un travail correct. Voilà. On avait prévu, alors on regarde la pendule.
Un petit peu d'actualité.
On a en ce moment une visite, je crois, d'un prince.
Un
futur roi d'Arabie Saoudite qui est à Paris.
C'est Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite et en visite officielle en France actuellement. Donc c'est du 8 au 10 avril, donc je pense que...
On y est. On n'a pas été invité, mais...
Alors que le président français a toujours affirmé que le respect des droits humains était une priorité de sa présidence, il a maintenant l'opportunité d'ouvrir un dialogue critique et constructif avec le prince saoudien sur la question du respect des droits humains. Donc on va vous parler de quelques sujets.
On espère qu'il va parler de ça. Voilà, nous on lui donne les idées.
On donne les idées. Donc le premier sujet, la peine de mort. L'Arabie saoudite est un des pays qui exécute le plus au monde. Chaque année, des condamnations sont prononcées pour toute une série de crimes, englobant aussi des actes qui n'ont aucune dimension criminelle, tels que la sorcellerie ou l'adultère.
Tiens donc.
On peut être condamné à mort pour sorcellerie en Arabie saoudite.
Tout à fait.
Et l'adultère, quand même aussi. Oui, ça me choque aussi autant.
Oui. Non, mais tout à fait. Non, mais bon, je m'arrête au premier mot. Il n'y a pas de notion de valeur.
D'accord. Alors moi, je vais parler aussi quand même, j'espère qu'il... la liberté d'expression. Ils vont discuter tous les deux, donc j'espère qu'ils vont, ils vont pouvoir aborder cette problématique en Arabie Saoudite. Car on sait que les autorités saoudiennes répriment toute contestation et opposition. La législation et les pratiques du gouvernement visent à ce qu'aucune voix dissidente ne puisse s'exprimer. Écrivains, blogueurs, avocats et toutes celles et ceux qui entendent s'exprimer, revendiquer ou défendre les droits humains font objet de menaces, de persécutions, voire d'emprisonnement. Et moi, j'ai entendu hier aussi sur une autre radio, je ne sais plus laquelle c'était, peut-être France Info, la femme de Raif Badawi. Alors, Raif Badawi, ça vous dit quelque chose?
Oui, oui.
Le blogueur emprisonné depuis 2012, qui avait été condamné à...
100 coups de fouet.
100 coups de fouet.
100 coups de fouet et qui est toujours en prison malgré la...
100 coups de fouet tous les semaines ou je ne sais plus.
Oui. Voilà.
Enfin, ils ont fait que la première série, après ils n'ont jamais donné suite.
Mais voilà. Bon. Mais il a été emprisonné absolument pour avoir créé un site et pouvoir parler des droits des femmes. Alors sa femme dit, bah, écoutez, le prince Ben Salman, il est à peu près ce qu'il dit par rapport aux femmes, c'est ce que mon mari disait en 2012. Donc elle espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer et elle espère aussi que notre président Macron va en parler. Hein, et c'est vrai que c'est quelqu'un pour qui on... Moi, je suis quand même très attentive, quoi, parce qu'emprisonner pour simplement avoir émis des idées...
Des critiques par rapport au gouvernement, enfin, par rapport à l'État. Hein.
Voilà. Mmh. Non, mais en plus, c'était même aussi par rapport aux droits des femmes.
Oui, c'est ça.
C'était vraiment quelque chose qui nous semble
c'est
tellement
anodin.
Voilà.
C'est ça, mais c'est une critique par rapport au gouvernement, enfin, par rapport à l'État.
Voilà, donc pour vous dire quand même, un petit exemple aussi, en Arabie Saoudite actuellement, tout rassemblement public, y compris des manifestations pacifiques, demeure interdit en vertu d'un décret de 2011 du ministère de l'Intérieur. Et là, dernièrement, l'Arabie Saoudite a rompu ses relations avec le Qatar et il n'était absolument pas question que des citoyens d'Arabie Saoudite expriment la sympathie à l'égard de ce pays. Donc il y a aussi tout est principe ou tout est prétexte à limiter la liberté d'expression.
Pour être précis, en fait, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas.
Ben, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dites quelque chose qui ne sont pas... Ouais, ça ne marche pas.
Voilà. Après, il y a les arrestations et détentions arbitraires. Alors, les services de sécurité en Arabie Saoudite ont couramment recours à des arrestations arbitraires. Le maintien en détention de personnes pendant de longues périodes, sans inculpation ni jugement, et sans les déférer devant un tribunal compétent, en violation du code de procédure pénale, est très courant. Les détenus sont souvent maintenus au secret, privés du droit de consulter un avocat, en totale violation des normes internationales d'équité des procès. Et les défenseurs des droits humains sont traités comme des terroristes. Il y a 2 ans, l'Arabie Saoudite se dotait d'une loi très contraignante pour les associations. Pari réussi, puisqu'aucune nouvelle association n'a été créée depuis. Les organisations indépendantes de défense des droits humains, qui avaient été contraintes à la fermeture, dont l'Association saoudienne des droits civils et politiques, l'Union pour les droits humains et le Centre Adala pour les droits humains et l'Observatoire des droits humains en Arabie Saoudite, n'ont pas non plus repris leurs activités. En octobre 2016, les autorités ont adopté une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme en remplacement de celle de 2014. Le nouveau texte prévoit des peines spécifiques pour les infractions liées au terrorisme, dont la peine capitale. Il définit toujours des actes terroristes en des termes vagues et excessivement larges, ce qui permet son utilisation comme outil de répression supplémentaire de la liberté d'expression et des défenseurs des droits humains.
Tu crois qu'on utilise les lois contre le terrorisme pour en profiter pour
faire autre chose pour réprimer? Je crois que ça se fait un petit peu.
Il y a
pas à la même
pays.
Échelle, mais
ouais.
Ça se fait aussi un petit peu chez nous quand même, ce genre de dérive, hein, même si on peut pas comparer, effectivement. Mais effectivement, oui, la lutte contre le terrorisme, entre guillemets, bon dos pour faire autre chose, effectivement, pour réprimer. Et
on pourrait dire la Turquie aussi, non?
Oui.
Oh, hein, c'est une paille.
Et puis, Edith, voulez-vous parler aussi des droits
Saoudite? Oui, droits des femmes. Alors, vous avez dû en entendre parler, les femmes ont le droit, depuis juin 2018, de conduire.
Enfin,
de...
C'est formidable.
Voilà, c'est quand même quelque
les
chose.
Les femmes peuvent conduire une voiture. Elles n'avaient même pas ce droit-là.
Et faire du vélo.
Est-ce qu'elles doivent continuer à porter le voile en conduisant?
C'était une grosse... Ils en ont discuté, d'ailleurs. Hein. Donc, mais quand même, les femmes et les filles continuent à être très discriminées. Elles doivent toujours obtenir l'autorisation d'un tuteur masculin, père, mari, frère ou même fils, pour s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur, chercher un emploi, se rendre à l'étranger ou se marier. Alors, Effectivement, le prince Salman a cependant pris un décret demandant à tous les organismes publics de ne plus exiger ce genre d'autorisation pour la délivrance des services publics, sauf disposition express. Mais ce décret n'est pas encore appliqué. Et ce texte pourrait renverser la liberté des femmes d'exercer un contrôle sur leur vie. Enfin, ça va être quand même, ça va mettre du temps, à mon avis, le contrôle sur leur vie. Mais il n'a pas été mis en œuvre. Donc, c'est quand même tout à fait timide, on va dire.
Ça me rappelle, si je peux faire un commentaire, j'entendais justement l'autre jour... Oui, non mais juste un petit commentaire rapide sur ce que tu viens de dire. J'entendais l'autre jour, sur une autre radio, si je ne sais plus qui c'était, un dialogue entre une correspondante plus ou moins officielle d'Arabie Saoudite, qui parlait très bien français, et qui disait que c'était un grand progrès, effectivement, les différentes réformes qui étaient envisagées, dont les droits des femmes et le droit de conduire, enfin, etc. Et la journaliste française qui l'a interviewée, qui disait quand même, madame, vous, les droits des femmes ont tellement été bafoués, on vient de tellement loin que de ce que ces petites avancer, c'est quand même pas grand-chose par rapport à la réalité générale. Voilà, j'ai trouvé que sa remarque était très juste. Fallait quand même remettre un peu les produits.
Oui, mais voilà, on va dire que depuis les années précédentes, c'est là le premier certes, qui bouge certes, un petit peu par rapport aux droits des femmes.
Certes,
voilà.
C'est mieux, mais on aimerait beaucoup que ça aille beaucoup plus vite.
Ah bah bien sûr, oui, on va sûr.
Il y avait encore Rodan qui voulait Rodan, dire un petit mot sur l'Arabie Saoudite.
Bah tout à fait, parce qu'on continue, donc on demande au prince aussi de cesser de persécuter la minorité chiite. Des membres de la communauté chiite d'Arabie Saoudite subissent depuis longtemps des discriminations et sont arrêtés, emprisonnés et harcelés dans le but de le réduire au silence. Et on demande aussi, ce qui importe, de cesser de tuer les civils dans le cadre du conflit au Yémen, car l'Arabie Saoudite qui dirige la coalition militaire au Yémen et d'autres parties au conflit ont commis de graves violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire en menant des attaques manifestement illégales dont certaines doivent faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Cette coalition a tué et blessé des milliers de civils pendant le conflit au Yémen ces dernières années, dont de nombreux enfants. D'après le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé. 683 enfants ont été tués ou blessés en 2016 par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a également utilisé des armes à fragmentation, des armes explosives meurtrières non discriminantes par nature et largement interdites au titre du droit international en raison des terribles blessures qu'elles peuvent infliger aux civils.
On rappelle que effectivement l'Arabie Saoudite est largement responsable de la guerre qui continue à sévir au Yémen.
Avec nos amis russes aussi, non ?
Oui, oui, les Russes.
Il y a une coalition.
Les Russes y participent et la France continue à vendre
des armes. À vendre un peu d'armes. Voilà, ils vont peut-être en parler malheureusement.
Alors
aussi.
On voulait vous en parler aussi. Bon, on va être obligé d'abréger, donc on ne pourra pas vous parler beaucoup. On y reviendra des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi un scandale effectivement que continue à faire la France de vendre des armes dans ces conditions-là.
Voilà, donc on va surveiller, voir ce que notre ami Macron en aura parlé, on va voir.
Si on le sait, parce qu'à mon avis, il ne dira pas grand-chose du contenu.
Ils ont annoncé à la télé que cette fois-ci, il n'y avait pas de vente d'armes de prévu.
C'est vrai ?
Parce que comme si c'était
ils ont fait un effort.
Si les contrats ont déjà été signés, ils n'ont même plus besoin d'en parler. Ouais. C'est déjà fait.
Et Kéris, tu peux peut-être dire la soirée, on fait une soirée spéciale musicale ce soir, non ?
Oui. Alors, ce soir, je suis arrivée un peu en retard et j'ai téléphoné à Didier en lui disant « De toute façon, je m'occupe de la programmation musicale ce soir. Je te préviens, j'amène que des disques d'Igelin. » Et lui, il me répond « Bah oui, bah moi aussi. »
Donc ben voilà, on a eu la même idée.
Donc, c'est pas pour rien. Forcément, vous le savez, Jacques Igelin s'est éteint vendredi dernier. Moi, c'est mon chanteur préféré, voilà, je n'ai jamais caché. Et on a eu un petit coup de blues. J'aime bien me rappeler de lui en me disant, il rappelait une phrase de Nougaro qui disait, quand on a un don, c'est pour donner. Et Igelin, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup sur scène.
Énormément.
Qui donnait aux autres, c'était une bête de scène.
Tu savais jamais quelqu'un de... Moi qui l'ai vu plusieurs fois en concert, il commençait, mais tu ne sais jamais quand il terminait, ça a duré 3 heures. Quoi.
Donc on a décidé aujourd'hui, aussi parce que c'était un chanteur engagé, en n'oubliant pas ses prises de parole, ses prises de position, son engagement pour les sans-abri, pour les sans-abri et pour les sans-papiers, notamment dans les années 90. C'est quelqu'un qui ne voulait pas non plus qu'on médiatise son action et qui ne voulait pas être devant comme certaines... tout ça et tout, et qui donc a continué à le faire. On peut pas dire que c'était quelqu'un de discret.
Non, mais quand j'ai discret dans le sens où
Prises de position, voilà. Elles étaient vraies et elles étaient pas faites pour être médiatisé, ouais, pour être
montré. Le penser voilà.
Et moi, je me rappelle qu'il est passé, je t'ai aparté, il a passé à Évreux il y a quelques années.
Dans l'émission de
Paulaine. Et j'y étais.
Et moi aussi, j'y étais, mon petit gars.
On se connaissait pas à l'époque. Et pendant la pub,
il a fait des
auditeurs qui étaient avec Ronan et avec Claire Lise. Téléphoner.
Il y a même eu un article de journal qui s'appelait Higelin aime la baronne, parce qu'il y avait les artistes qui étaient ce jour-là, il y avait M et il y avait la baronne.
Avec Jean-Louis Foulquier, qui était quelqu'un que j'adorais, qui malheureusement n'est plus là aussi aujourd'hui, et qui présentait cette émission.
Donc voilà.
Musique.
On va écouter Higelin ce soir avec vous.
Donc, de retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International Évreux. On vient donc d'écouter Higelin, comme on vous le disait. Le morceau s'appelle Fiche anthropométrique, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est pas un de ses plus connus, mais c'était un petit peu en rapport aussi avec les droits humains. Mmh. Et puis, c'était parce que justement, il y a plein de chansons que les gens connaissent pas toujours, qui sont pas forcément passées à la radio. Et c'est une mine précieuse.
Et voilà. Il y a Ronan qui a, je crois, une bonne nouvelle à vous annoncer.
Eh oui. La libération, tout à l'heure on parlait justement d'un blogueur, mais là c'est la libération d'un défenseur condamné pour les publications sur Facebook, et cette libération c'est au Tchad. Donc la libération d'un cybermilitant à la suite d'une grande campagne mondiale est peut-être une première mesure annonçant la fin de la répression des voix dissidentes dans ce pays. Un tribunal de la capitale tchadienne N'Djamena a ordonné le 5 avril la libération de Tajaddine Mahamoury, plus connu sous le nom de Mahadine, qui était détenu depuis le 30 septembre 2016 pour avoir diffusé sur Facebook plusieurs vidéos dénonçant la mauvaise gestion des fonds publics.
Voilà. Donc au moins, à défaut que notre ami Raif Badawi que son cas n'évolue pas, eh bien, on a au moins la bonne nouvelle d'une libération de quelqu'un qui était en prison aussi pour délit d'opinion.
Tout à fait.
Je crois qu'il y avait Claire Lise qui voulait vous parler, alors on va changer complètement d'endroit, mais qui voulait vous parler des États-Unis.
Oui, et de la peine de mort aux États-Unis. Donc, je vais vous parler d'abord de ce qui se passe aux États-Unis en général et puis aussi en Californie. La peine capitale serait-elle condamnée à mort aux États-Unis d'Amérique ? Pas encore, mais des signes témoignent de son affaiblissement progressif. Sur 50 États, 19 sont abolitionnistes et 4 autres sont sous moratoire. En 2017, 80 exécutions ont été programmées dans 11 États, mais 23 condamnés ont été mis à mort dans 8 autres États, dont 17 dans 4 États du Sud, Texas, Arkansas, Floride, Alabama. S'il y a près de 3000 condamnés à mort dans les pays, les peines capitales sont en nette baisse ces dernières années. L'État fédéral compte en outre 61 condamnés dans son couloir de la mort. La dernière exécution y remonte à 2003. Enfin, dans le couloir de la mort de l'armée, il y a 5 prisonniers. La dernière exécution date de 1961. Régulièrement, des projets de loi sont présentés par les États-Unis, par les États pour abolir totalement la peine de mort ou pour en exclure les malades mentaux. D'autres veulent la rétablir dans les États abolitionnistes, jusque-là sans succès. Le coût de la peine capitale est souvent à l'origine des nouveaux projets de loi. C'est un argument de poids pour les contribuables, comme on le voit en Floride. La discrimination raciale mine en outre le système. 3 à 4 fois plus de probabilité d'être condamné à mort si la victime est blanche, voire beaucoup plus si le présumé coupable est afro-américain ou hispanique. L'impact dissuasif de la sentence capitale est remis en question. Les rapports du FBI montrent, année après année, qu'au Sud, le taux de criminalité y est le plus élevé, avec plus de 80% des exécutions. Alors qu'au Nord-Est, ce taux est le plus bas et les exécutions ne représentent qu'1% du total. Enfin, la possibilité d'exécuter un innocent ronge la conscience de l'Amérique. Depuis 1973, 161 disculpations ont été prononcées au rythme de 5 par an ces dernières années. Mauvaise conduite de procureur, dissimulation de pièces à la défense, analyse et expertise trafiquées, représentation d'avocats défaillantes, ce sont autant de causes de révision de procès. Le système est défectueux et cette défaillance devient de plus en plus visible. Donc ces propos-là, c'est dans un texte d'Anne Denis de la Commission peine de mort à Amnesty International France. Voilà, donc je voulais vous parler aussi de... J'ai encore quelques petites minutes ?
Oui.
Allez. En Californie, le plus long couloir de la mort, pourtant réputé progressiste, l'État de l'Ouest américain dit toujours non à l'abolition de la peine de mort. Le sursis dure depuis 12 ans. Le 21 février 2006, à 19h30, Michael Morales est censé mourir dans la chambre d'exécution de la prison de San Quentin, dans la baie de San Francisco. Mais une heure avant qu'une dose fatale de barbiturique ne lui soit injectée, le porte-parole du centre pénitentiaire annonce la nouvelle. Aucun médecin n'a accepté de participer à la mise à mort. L'exécution est reportée sine die. Morales, condamné à la peine capitale en 1983 pour le viol et le meurtre d'une adolescente 2 ans auparavant, ne sera pas la 14e personne à être exécutée en Californie depuis que la peine de mort a été rétablie en 1977 après un moratoire national. Michael Morales n'est pas pour autant tiré d'affaire, car le Golden State, en dépit de sa réputation progressiste, reste très attaché à la sentence ultime. Sollicité lors de référendums en 2012 et en 2016, les électeurs ont à chaque fois dit non à l'abolition. Les juges californiens continuent régulièrement à prononcer des condamnations à mort. Les passages à l'acte restent rarissimes. Conséquence, le couloir de la mort californien ne cesse de s'allonger, au point d'être le premier du pays. Sur les 2800 personnes attendant leur exécution aux États-Unis, près de 750 sont en Californie. Certes, le Golden Tate, avec ses 40 millions d'habitants, est l'État américain le plus peuplé. Mais cela ne suffit pas à expliquer qu'on y trouve un quart des condamnés à mort. Il existe bien un attachement historique et ambivalent à la peine capitale.
Voilà, donc on peut dire que ça progresse, mais que ça progresse difficilement. L'abolition de la peine de mort aux États-Unis, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Mais ce qui est intéressant, c'est la société civile.
Oui.
Voilà, même si la loi n'arrive pas à bouger, mais donc la société civile est quand même beaucoup plus réticente.
Oui, enfin, il y a quand même des États qui petit à petit abolissent la peine de mort.
Parce que ça coûte cher aux contribuables.
Oui, oui. Tout à fait. Hein. Mais ça, c'est un argument qui, entre autres, a été développé par Amnesty États-Unis, effectivement, qui pour nous est un peu difficile à comprendre dans notre mentalité. Mais chez eux, effectivement, c'est un argument qui porte. Ils ont démontré qu'effectivement, le maintenir quelqu'un en prison coûtait moins cher que de l'exécuter. Voilà. Donc, voilà, c'est un drôle de calcul, mais c'est un calcul qui porte dans l'opinion publique américaine. C'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, aussi une autre information, c'est que j'ai déjà dit à l'antenne, mais enfin que je répète toujours, d'après les statistiques officielles du ministère américain de la Justice, maintenant qu'il y a des recherches de fait avec les recherches ADN et autres, les moyens plus modernes pour voir la culpabilité des gens, on estime que 25% des gens qui ont été exécutés étaient innocents.
Et oui.
Voilà. 1 sur 4 ou 1 sur 5 étaient innocents. Et donc maintenant, on le sait. Mais ces gens-là sont morts. Donc l'État américain a tué des innocents.
Donc ça peut faire réfléchir les juges. On va continuer, voilà.
Bien. On voulait vous parler un petit peu de la Hongrie aussi par rapport aux élections. On va quand même en dire quelques mots. On va beaucoup plus court que ce qu'on pensait à cause de la panne de courant qui nous a fait prendre l'antenne en retard.
Mais bon. Tu crois que c'était fait exprès?
Non, non.
Ouais. Ah, pas on ne sait pas. Enfin, hein, tiens, on va peut-être réétudier la question.
Je vais vous faire un petit quiz. Je vais vous demander, est-ce que vous savez, mais enfin, bon, vous aurez une idée de la réponse, qui est-ce qui a dit cette magnifique phrase? Nous ne voulons pas être un pays cosmopolite. Nous voulons rester comme nous étions il y a 1100 ans, ici, dans le bassin des Carpates. Les migrations et les déplacements massifs de population sont des phénomènes mauvais et dangereux dont nous ne voulons, décidément, pas faire partie. C'est une déclaration officielle de quelqu'un qui vient de remporter brillamment des élections en Hongrie.
Alors, Europe de l'Est, Hongrie, qui a remporté les élections?
Bah, c'est celui qui a gagné.
Et ben, pour l'instant, tu es bonne.
Je crois qu'il est arrivé premier.
Oui, c'est ça. C'est donc le président qui vient remporter les législatives, effectivement, pour un troisième mandat, Viktor Orban. Alors bon, c'est ça, cette phrase, elle est absolument hallucinante, hein, dire effectivement que les migrations, les déplacements massifs de population, qui sont des phénomènes que l'humanité a toujours connus et connaîtra toujours, dire qu'on est contre, c'est à peu près aussi intelligent que de dire que la Terre est plate ou que la Terre est le centre du Soleil et que le Soleil tourne autour de la Terre.
Et à cette époque, peut-être que les Hongrois, ils bougeaient un peu. Moi, j'ai souvenir quand même de chevaliers hongrois qui allaient un petit peu à droite, à gauche.
Et puis sous la dictature communiste, il n'y a pas si longtemps que ça, sous la dictature communiste depuis la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 80, il y a quand même eu une répression en 56 extrêmement dramatique en Hongrie de mouvements de protestation et de mouvements ouvriers faits par l'Union soviétique et que les réfugiés hongrois, bien évidemment, fuyaient leur pays. Ce monsieur Orban a la mémoire très courte, ou aussi quand il y a eu la disparition du rideau de fer, juste avant, où il y avait beaucoup de réfugiés hongrois qui fuyaient leur pays via la Tchécoslovaquie, je crois, ou l'ambassade de Tchécoslovaquie.
Il a dit l'émigration dans son pays, il n'a pas dit en dehors de son pays.
Voilà, exactement. Donc ce qui est interdit pour les autres est absolument autorisé pour soi. Donc c'est encore une fois des propos débiles. Et puis, enfin bon, il est habitué à ce genre de propos. Donc, mais ce qui est inquiétant, enfin là je ne vous lirai pas tout parce qu'on va manquer de temps, mais ce qui est inquiétant c'est que...
C'est déjà qu'il a été réélu, c'est ça qui est bien inquiétant.
Et avec en plus un score, il a battu tous les records de nombre de votants. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais
c'est truqué ou pas?
Non.
Il y a
quelques irrégularités, mais rien du tout. Oui. Et il est élu dans toute la Hongrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région.
C'est encore plus grave.
Et le deuxième?
Oui, le deuxième.
Ceux qui arrivent après.
C'est le parti d'extrême droite.
C'est l'extrême droite.
Donc eux, ils ont 49% des votants et l'extrême droite à 20%. Donc on arrive à près de 70% entre le populisme de Viktor Orban, proche de l'extrême droite, et l'extrême droite.
C'est ce que je veux dire, parce que c'est la même chose pour moi.
C'est la même chose. Non, enfin, l'extrême droite, c'est encore pire.
Ouais, ouais. Bon.
Oui, ont... L'extrême droite hongroise est là quand
oui,
même.
Enfin, bref.
Ah oui, tout à fait.
Alors, il y a des éléments de réponse. Hein. Amnesty le dit. Il y a effectivement le fait que les médias ont été muselés par les autorités hongroises depuis des années et que la presse n'est plus libre. Donc, les gens entendent ce genre d'argument, effectivement, en disant les gens qui sont dangereux, les vilains, ceux qui nous piquent tout, ce sont les émigrés.
Le danger est de l'autre côté de la frontière.
Qui nous viennent d'Afrique ou du Proche-Orient, ouais, qui sont que des terroristes.
Ceux qui ont mis un grillage et tout ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc on parlait tout à l'heure de la France qui vendait, pour quand même faire des rapports entre les choses, la France qui vendait des armes à l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite qui s'en sert pour bombarder le Yémen. Les gens effectivement du Yémen, bah, ils fuient, hein, ils sont comme tout le monde, comme les Hongrois dans les années 50, hein, ils fuient de la même façon. Et ils vont venir effectivement aussi se réfugier en Europe. Et Monsieur Orban, effectivement, va leur dire d'aller se faire tuer ailleurs. Effectivement, si c'est toute la notion d'humanité qu'il a, c'est effectivement triste à pleurer, si on peut dire. Et puis, dernière petite info, parce que, donc, encore une fois, on va aller plus vite que prévu. Je suis quand même allé voir aussi sur la cohérence de ce monsieur, qui est quand même le pire des malhonnêtes. Parce qu'il dit, bien sûr, dans son discours, qu'il est contre l'Europe, hein, qu'il est contre que l'Europe lui impose, effectivement, d'ouvrir ses frontières. C'est son argument principal. Hein. Tout est de la faute des étrangers, d'après lui. Donc, que l'Europe lui impose d'ouvrir ses frontières, que l'Union européenne, dont la Hongrie fait partie, est une contrainte absolument de plus en plus insupportable. Mais ce monsieur, il oublie de dire que la Hongrie a reçu 5 milliards d'euros de l'Union européenne depuis 2014, c'est-à-dire 5 fois plus de crédits qu'elle n'a versé au budget de l'État, et que lui et ses petits copains qui ont fait main basse sur l'ensemble des travaux publics en Hongrie, à travers différentes sociétés qui leur appartiennent, touchent le pactole en corruption et en détournement de ces 5 millions qui sont versés par la communauté européenne. Donc il y a même eu une enquête là, l'automne dernier, mais qui était faite par l'Union européenne. Pour l'instant, on ne voit pas bien ce sur quoi ça va déboucher, mais il est évident que ce monsieur est particulièrement menteur, malhonnête et dangereux. Voilà. Donc, ça me rappelle aussi des gens qui se présentent aux élections en France, hein, qui ont un peu ce même genre de discours. Et bon, nous, on continuera à lutter contre ces gens-là parce que ce sont effectivement des dangers par rapport à ce qu'on représente en tant qu'humanité.
Et il faut vraiment aussi faire que l'information arrive aux citoyens hongrois, parce que c'est beaucoup plus inquiétant. Là, c'est un système de pouvoir, et tu l'as bien dénoncé, mais le citoyen hongrois n'a pas accès à plus d'informations devenant de médias différents, et c'est ça aussi qui fait peur, parce que ils ont vraiment la tête prise dans ce qu'il aurait dit, et voilà, il y avait aussi la loi par rapport aux ONG, oui. Là, donc, dont j'ai parlé l'autre fois, il veut vraiment museler l'information dans son pays et faire que les gens ne croient que le discours officiel.
Et en plus, il est jeune, je crois, non ? Il est pas.
Bah, une soc,
il est moyennement jeune, mais enfin bon.
Mais bon, il est bien installé, non, là, quand même.
Bon, enfin, ce qui vise aussi, effectivement, à travers la loi dont Edith a parlé, ce qu'ils appellent la loi Soros, qui vise à éliminer les ONG, et dans le collimateur aussi du gouvernement hongrois actuel, la section hongroise d'Amnesty International, bien sûr, qui pour l'instant existe toujours, mais qui, effectivement, est directement visée par ce désir d'interdiction.
Toute ONG amenant un discours différent, dénonçant aussi ce qui se passe en Hongrie au niveau de la corruption et tout ça, on les retrouve.
Alors pour être tout à fait clair, moi je suis persuadé que ça c'est pas dit dans les textes d'Amnesty, mais je suis tout à fait persuadé que si on continue effectivement ce genre de discours à remonter les gens les uns contre les autres, de toute façon les gens continueront à migrer, ça c'est une évidence, ça a toujours été vrai, les gens continueront à fuir les guerres et heureusement qu'ils peuvent se protéger, et le genre de comportement et ce genre de discours et ce genre de gouvernement ne peut aboutir qu'à une seule chose,
je
pense que c'est la panne électrique.
C'est à ce que des conflits armés reviennent, y compris en Europe. Ça, c'est clair.
De toute façon, ça fait penser quand même. Quand on voit les fils barbelés, les murs barbelés qui remontent, quand on voit les élections des partis d'extrême droite qui remontent, c'est quand même très brun ce qui est en train de se profiler. Ça fait quand même penser à des heures de l'histoire européenne qui ne sont pas très glorieuses et qui font peur.
Et c'est effectivement un état politique de l'Europe de l'Est qui est vraiment soucieux. religieux, parce qu'on a parlé de la Pologne aussi il n'y a pas très longtemps, il y a une façon de se refermer sur le peuple en faisant croire que tout l'extérieur est mauvais et en mettant vraiment les médias un peu dans leur poche. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué et très soucieux.
Raison de plus pour continuer à nous écouter et agir avec nous, surtout agir. Il ne faut pas rester les bras croisés et les deux pieds dans le même sabot. Après, il sera trop tard. On continue dans le peu de temps qui nous reste, effectivement.
Il faut qu'il reste le temps pour écouter une chanson de
Digelin. Oui, on va en écouter une dernière pour finir l'émission.
Bon, on nous a interdit de passer Alerter les bébés parce que c'est trop
c'est
long.
C'est trop long. Alerter sans ça, on ne parle plus.
C'est pas juste.
Bon, il y en a peut-être qui préféreraient.
Bon, il y a peut-être Edith qui va pouvoir vous dire juste deux, trois mots sur les Rohingyas parce qu'elle voulait vous en parler, mais ça va être très,
ça va
très,
être très rapide. Eh ben, je vais vous dire, Rohingyas, vous vous rappelez, c'est la minorité qui est
musulmane.
Musulmane qui est vraiment a souffert d'un génocide au niveau de la Birmanie, du Myanmar. Donc il y a environ entre 650 et 700 000 Rohingyas qui sont partis surtout au niveau du Bangladesh. Et donc ce qu'on s'est rendu compte maintenant, donc Amnesty, Human Rights, avec des photos aériennes, c'est que tout l'état de l'Arakan où ils étaient, les villages ont été brûlés. Et on est en train d'enlever toute trace de leur habitat. Il y a en plus ce qui va être mis à la place. Et là, c'est quand même très soucieux. Ce sont des bases de l'armée, des bases d'hélicoptères, de la police. Et donc, on voit aussi très bien qu'il reste les habitations qui n'étaient pas habitées par les Rohingyas. Et qu'il va y avoir carrément toute cette province va être reprise au niveau militaire, au niveau défense, au niveau surveillance. Les terrains qui appartenaient aux Rohingyas ont été repris par des Birmans, hein, par des gens qui pouvaient rester sur la région. Et effectivement, les images satellites montrent aussi que les Myanmar ont dit qu'ils allaient faire des camps pour quand les Rohingyas allaient revenir, mais que il fallait qu'ils montent des papiers d'identité. Alors, ce qui est très compliqué parce qu'ils leur donnent plus de papiers d'identité depuis au moins une vingtaine d'années.
Oui.
Et ces camps-là, on voit toujours en photo satellite, ils sont cernés par des barrières de sécurité situées sur des zones où les soldats et les policiers des frontières sont stationnés en nombre. Donc, on se dit que ces camps-là, c'est pas des camps pour qu'ils puissent revenir et vivre calmement au Myanmar, mais c'est des camps où ils vont être comme dans une prison. Et ça rappelle aussi ceux, parce qu'il y a déjà eu d'autres vagues de violence en 2012, et il y a déjà des camps comme ça en Birmanie. Donc ça, c'est très inquiétant. Alors il y a... Oh, je regarde l'heure. Oui, peut-être juste encore un tout petit peu de temps. Il y a le... Non, ça va être... Bon, je vous raconterai la prochaine fois que le président d'Amnesty est allé voir le Bangladesh, parce que eux, quand même... Par rapport à la Hongrie, ils ont accueilli déjà les gens du Myanmar et on voudrait qu'effectivement ils ne les forcent pas à retourner de l'autre côté. On voudrait que la communauté internationale aussi aide le Bangladesh, qui est un pays très très pauvre, pour pouvoir les accueillir et qu'ils fassent aussi pression par rapport au Myanmar. Voilà.
Tout à fait.
Non, mais bon, pour plus d'informations, vous mettez un petit mail et je vous raconte le reste.
Bon, on va terminer notre émission, comme on le disait, par un dernier hommage à Jacques Higelin. Donc, effectivement, un petit morceau de musique. Juste pour vous dire que la prochaine émission, c'est le mardi 24. Mardi 24 avril, donc 19h, sur l'antenne de Principe Actif, que vous avez tous les podcasts depuis des années d'émissions sur le site de Principe Actif, principeactif.net. Et surtout, n'oubliez pas d'aller signer les pétitions et d'agir sur le site d'Amnesty, amnesty.fr.
Bonsoir.
À bientôt.
Bonsoir. Et je la...
chaise toute seule sur le trottoir. Une putain de belle chaise toute noire, en fer, avec des lanières de plastique tendues. Une vraie chaise de barapute, une chaise à l'état brut, qui avait dû en voir et en recevoir des culs. Des gros lourdingues à fessiers mous, des petits malingres serrés du trou, ou des jolis voluptueux qui vous attirent le bout des yeux pour mieux leur passer les menottes. À savoir, à ce moment-là, j'avais perdu le goût de m'asseoir, et la marée, ma solitude, mon cafard, et mes habitudes à celles des piliers d'abreuvoir. J'en ai eu marre de les voir s'écrouler sur eux-mêmes, en se raccrochant à des histoires qui tiennent pas debout. Ces petites histoires qui vous entraînent au fil des heures, des jours, des semaines, de soirs pisseux en